dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, on va parler de la QPC numéro 3 qui a été discutée. Statué au Conseil constitutionnel le 31 mars à propos de l'isolement et la contention. Bonjour André.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, donc finalement, le 31 mars, donc vendredi, le Conseil constitutionnel rendait son délibéré sur la décision sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité envoyée en 3 ans. Par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel pour qu'il soit statué sur certains aspects du texte de loi relatif à l'isolement contention. Alors, on avait consacré une émission L'Entonnoir le 8 février 2023 aux écritures qui ont été introduites, dont notre propre jeu de conclusion. Alors finalement, que décide le Conseil constitutionnel ? Alors, il faut voir que depuis mars 2010, où les questions prioritaires de constitutionnalité sont rentrées en vigueur, la question des droits fondamentaux des personnes internées et traitées de force en milieu psychiatrique est revenue à 10 reprises devant le Conseil constitutionnel depuis 13 ans. À 10 reprises. C'était là la 10e fois que le Conseil constitutionnel était interrogé sur la constitutionnalité de dispositions relatives à l'internement psychiatrique. Et là, c'était la 3e fois que le Conseil constitutionnel était saisi d'une demande d'invalidation d'une partie du texte de loi relatif à l'isolement contention. Alors déjà, il y avait eu une première saisine qui avait été statuée en juin 2020, qui avait prétendu une censure, qui avait une réforme, une première réforme non satisfaisante à la rentrée 2020, judiciarisation partielle du maintien de ces mesures. Les juristes étaient revenus devant le Conseil constitutionnel qui a statué par une deuxième décision de juin 2021, entraînant une judiciarisation systématique du maintien en isolement contention, mais avec des rebondissements procéduraux sur lesquels donc on avait parlé. Donc finalement, les juristes, épaulés par notre association notamment et par de nombreux autres intervenants, d'ailleurs très prestigieux d'ailleurs, la corporation des avocats est montée au créneau à travers la Conférence nationale des barreaux et le barreau de Paris. Bien, donc, ont de nouveau saisi le Conseil constitutionnel sur des points, pas tout à fait secondaires, mais finalement sur quelques détails, finalement, de la législation sur l'isolement contention. Alors, donc, finalement, le Conseil constitutionnel rejette le pourvoi, ce qui clôt la question au plan constitutionnalité, mais qui ne clôt pas la lutte. Alors, il faut bien voir que c'est la 2e décision de conformité sur 10 QPC, relative à l'internement psychiatrique. Bien, la première décision de conformité, ça avait été sur les unités pour maladies difficiles en février 2014, sur un texte qui avait été préalablement réformé, par la législation du 5 juillet 2011, enfin, qui avait été réformée par la législation du 27 septembre 2013, sur l'initiative du député Denis Robillard, PS, avec le soutien du gouvernement et du groupe socialiste, en ce que le statut dérogatoire des internés en unité pour maladies difficiles avait été supprimé. Bien. Et donc, si bien que le Conseil constitutionnel avait donc déduit de cela qu'il n'y avait plus, vu cette réforme du 27 septembre 2013, de problématiques de violations spécifiques entraînant une couverture au niveau de la protection des droits spécifiques sur les UMD seuls. Bien. Et là, c'est donc la 2e décision de conformité, ce qui veut dire que sur les 10 saisines du Conseil constitutionnel en matière d'intolérance psychiatrique, il y a eu 8 censures. 8 censures de conformité, et surtout une conformité, là, en l'espèce, en revenant à 3 reprises. Donc, vraiment, c'est très honorable. Alors, il n'est pas exclu que des contentieux soient élevés en Cour européenne des droits de l'homme, ce qui permettra de connaître éventuellement une décision sur un dossier individuel, hein, d'ailleurs, de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Alors, l'Ospimédia avait donc consacré la journée même du délibéré du Conseil constite une dépêche qui me paraît intéressante, et d'autre part, le docteur Mathieu Bellassène, psychiatre dissident, lanceur d'alerte avec qui nous travaillons, a fait publier une tribune dans Libération, co-signée avec la présidente du syndicat de la magistrature, dont je vais vous donner lecture. Donc alors, Ospimédia, 31 mars. Le Conseil constitutionnel a écarté ce 31 mars les griefs portés dans deux recours contre le cadre actuel de l'isolement contention en psychiatrie. Il était accusé, ce cadre, de méconnaître certains droits des personnes hospitalisées, isolées ou contenues. En réponse à deux QPC examinés conjointement, le Conseil constite a écarté ce 31 mars les griefs portés contre le cadre légal actuel régissant l'isolement et la contention en psychiatrie. Dans cette décision qui était attendue en matière de respect des droits des patients, les sages estiment finalement que les dispositions en vigueur sont conformes à la Constitution, alors que l'on pouvait vraisemblablement s'attendre à une nouvelle censure au regard de ces précédentes décisions en la matière. Le gouvernement ne sera donc finalement pas contraint à ce stade et sous réserve de nouvelles QPC à venir, puisque la loi du 5 juillet 2011 n'a pas été visée par le Conseil constite et est libre pour des QPC. Donc le gouvernement ne sera donc finalement pas contraint, sous réserve de nouvelles QPC à venir, de légiférer une nouvelle fois sur l'isolement contention en psychiatrie. Plusieurs atteintes aux droits visés. Le Conseil a été saisi du paragraphe 2 de l'article 32.22.5.1 du Code de la santé publique sur l'isolement contention dans sa rédaction résultant de la loi du 22 janvier 2022, prise dans des conditions rocambolesques, puisqu'il y avait eu une censure du dispositif gouvernemental dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022, censuré, le dispositif qui avait été inscrit par le gouvernement avait été censuré comme cavalier. Et donc, il s'en était en suivi un vide juridique de 3 semaines, ce qui était assez rocambolesque. Bien. Donc, via l'une des QPC, il est en premier lieu reproché aux dispositions actuelles de ne pas prévoir, dès le début d'une mesure d'isolement de contention, la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés de la détention, d'une demande de main levée et de son droit d'assistance d'un avocat. Le requérant estime qu'il en résulte une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits à la défense. Il considère aussi que cela porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et à la liberté d'aller et de venir. Via la seconde QPC, la requérante fait grief à ses dispositions de ne pas prévoir que le patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement de contention est systématiquement assisté par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge lorsqu'il s'agit d'un contrôle sur dossier et que la personne n'est pas comparante. Cet article du Code de la santé publique méconnaîtrait ainsi les droits de la défense et de la liberté individuelle. Ces mesures seraient en outre, pour les mêmes motifs, entachées d'incompétence négative. Autrement dit, le législateur n'a pas assez statué, n'a pas assez légiféré. C'est l'incompétence négative, quand il y a un vide et qu'on laisse cela des textes d'application à la jurisprudence. Donc entaché d'incompétence négative dans des conditions affectant ses exigences constitutionnelles. Alors, par ailleurs, certaines parties intervenantes dans ce dossier ont fait valoir que, faute de prévoir la notification immédiate aux patients de ses droits, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l'article 66 de la Constitution. C'est-à-dire le juge judiciaire garant des libertés individuelles, le droit à un procès équitable et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Elle serait en outre entachée d'incompétence négative dans des conditions affectant ses exigences constitutionnelles. Alors, ces pratiques ne sont pas des sanctions. L'argument du Conseil constitutionnel pour écarter le premier grief, à savoir l'absence de communication aux patients immédiatement de ses droits et voies de recours et de sa possibilité de saisir le JLD, c'est qu'on n'est pas en matière pénale et qu'il ne s'agit pas de sanctions, mais de protection de l'individu et des tiers. Et donc, en matière de protection de la santé, objectif à valeur constitutionnelle, préambule de la Constitution de 1946, on ne peut pas considérer qu'il s'agisse de sanctions. Ça pose problème, hein, d'ailleurs. Ça pose problème puisque, il y a de nombreuses mises en isolement contention qui sont disciplinaires. Tout d'abord, les juges constitutionnels indiquent qu'en ne prévoyant pas que le patient doit immédiatement être informé de son droit de demander la main levée de la décision de placement en isolement contention, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, compte tenu de l'ensemble des droits, des voies de droit ouvertes et du contrôle exercé par le juge judiciaire, le droit à un recours juridictionnel effectif. Par ailleurs, les juges constitutionnels considèrent que si les mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté, de telles mesures ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Ainsi, elles ne relèvent pas d'une procédure de recherche d'auteur d'infraction et ne constituent pas une sanction ayant le caractère de punition. Bien. Dès lors, explique le Conseil, l'absence de notification au patient de son droit à l'assistance d'un avocat ne peut être contestée sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit que dans un État donné, si cet État ne pratique pas la séparation des pouvoirs, s'il n'y a pas une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, cet État n'a pas de constitution. Et donc que les droits à la défense, l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire est donc ainsi garantie, ainsi que le droit à la défense. Bon, alors d'ailleurs, c'est assez compliqué comme notion, parce que historiquement, les monarchies en France, après la Restauration, ont toutes eu une constitution, hein. La Constitution 1814, la Constitution de 1830, etc. Enfin, le Conseil estime que les dispositions contestées ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité humaine, la liberté d'aller et venir, le droit à un procès équitable ou les exigences de l'article 66 de la Constitution sur le juge judiciaire garant des libertés individuelles, ni aucun autre droit, etc. Enfin, constitutionnellement visé. Donc voilà, donc ça c'est une décision. En fait, la porte est ouverte d'une pour de la jurisprudence en droit interne et de deux pour une saisine éventuelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors par ailleurs, la tribune publiée par dans Libération, hein, écrite par Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, et Mathieu Bellassène, psychiatre lanceur d'alerte, d'ailleurs c'était le 30 mars, en 2021, sur les 95 000 personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, 30 000 environ ont été placées en chambre d'isolement et 10 000 d'entre elles ont été attachées. C'est pas rien. Ça, c'est les statistiques de l'IRDES, l'Institut de recherche en économie de la santé, sur une enquête dirigée par Mme Magali Koldofi, qui a repris du service en tant que statisticienne spécialisée sur ce terrain. Tout le monde le sait, la justice et la santé œuvrent dans la misère. Et en leur sein, la psychiatrie et la justice civile, celles qui traitent en particulier des soins psychiatriques sous contrainte, trinquent particulièrement et par là maltraitent les patients, les justiciables et leur entourage. Dans ce contexte de dépérissement, mais également une époque détricotage des libertés fondamentales, d'aller et de venir, de manifester, d'association, des victoires juridiques en faveur des droits des patients sont assurément chéries, en l'occurrence ici en matière d'isolement et de contention. C'est en effet majoritairement avec satisfaction, il y a un peu plus d'un an, qu'ont été accueillies les décisions du Conseil constitutionnel enjoignant le gouvernement de rendre obligatoire le contrôle judiciaire des mesures d'isolement et de contention dépassant une certaine durée, enfin analysées comme des mesures privatives de liberté. Alors ça c'est vraiment contestable. Il y a un peu plus d'un an, un an, les décisions du Conseil Constit et les réformes qui s'en sont suivies ont été accueillies avec exaspération, avec colère, avec révolte par les syndicats représentatifs des psychiatres hospitaliers et des corporations, sauf des syndicats minoritaires, plutôt gauchistes hein, d'ailleurs. Au motif que cela rendait impossible les conditions d'exercice à l'heure actuelle, vu les pénuries. Et d'ailleurs, ces réformes successives sont au départ, avec la protocolisation et la raréfaction des moyens, d'une vague de grandes démissions en psychiatrie, des psychiatres et des personnels spécialisés. Alors que ces pratiques, donc ça c'est le point de vue contestataire, hein, on va dire. C'est-à-dire ça a été accueilli avec satisfaction par les contestataires du circuit. Alors que ces pratiques sont considérées par plusieurs textes internationaux comme des traitements inhumains et dégradants, la loi du 22 janvier 2022 sur le pass sanitaire, d'ailleurs, Bon. Modifiant le régime de l'isolement et de la contention en milieu psychiatrique sous-entend enfin que ces mesures ne peuvent plus être vues comme des derniers recours bien traitants, des méthodes qui laissent des traces. L'expérience de tous du confinement permet plus facilement d'imaginer ce que peuvent vivre les patients sanglés et isolés dans une chambre verrouillée et d'appréhender la violence que ces pratiques portent en elles. Quels qu'en soient les motifs, et bien que visant des personnes agitées, troublées, dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui, diront les textes, d'aucuns ne peuvent plus mésestimer que ces méthodes d'enfermement laissent des traces. Des traces sur le corps du patient, des traces dans les habitudes du soignant, des traces sur la liberté d'agir sur les deux. De la garantie de ces libertés... Donc, de la garantie de ces libertés est fait ce nouveau contrôle du juge, sauf que nulle garantie il n'y aura aussi peu pour une raison essentielle, notre misère dopée à l'indigence des décideurs. La misère sur le terrain. Sans surprise, cette réforme a dû être appliquée à moyens constants, de sorte que les juges, les greffiers, les équipes soignantes bricolent et s'épuisent un peu plus pour essayer de mettre en œuvre un texte écrit avec les pieds et aux effets bureaucratiques, comme beaucoup ayant d'ailleurs renoncé à appliquer cette loi. En 2021, sur les 95 000 personnes hospitalisées en consentement, donc 30 000 en isolement, 10 000 attachées, ces chiffres recèlent des catastrophes existentielles et une perte de confiance parfois irrémédiable dans les soins. Là-dessus, j'ai eu un témoignage récemment. Une jeune femme qui a été internée il y a plusieurs années à la demande de ses parents en périliminant ou sur le mandat d'un tiers, je ne sais pas exactement, au Vinatier, a été traitée de telle façon et avec un tel choc sur son intégration, suite à une TS sur sa vie personnelle, qu'elle s'est rapidement mise en cavale dans sa bagnole, quelque part en France, pour ne plus subir quoi que ce soit de semblable. Donc c'est tout dire que... Et puis là, je veux dire, bon, maintenant cette personne reprend du contact avec les réseaux de pères aidants, etc. Mais c'est dire que la chute de confiance dans la médecine elle-même s'en ensuit.
Oui.
Bon, donc c'est véritablement catastrophique, puisque si l'on veut soigner les conduites suicidaires comme cela, on les catalyse, on les augmente, on les aggrave. Et si l'on veut prendre en charge correctement des troubles psychiatriques, je crois que là, on aggrave la situation de beaucoup. Parce que bon, on ne peut pas parler de soins dans de pareilles conditions. Donc, des pratiques alternatives à la coercition. La création d'un contrôle judiciaire sur la régularité et la proportionnalité de ces mesures, l'immixtion du juge dans ces couloirs confins et honteux de l'hôpital psychiatrique, aurait ainsi dû être l'occasion de repenser l'office du juge en cette matière si particulière de la santé mentale, d'inclure les personnes hospitalisées dans le processus décisionnel en permettant notamment des directives anticipées et de renforcer les pratiques alternatives à la coercition. Parce que dans cette affaire, nous, on avait demandé que le texte de loi sur l'isolement contention prévoit une implication des aidants, hein, des mouvements d'usagers. Non, que chic. Enfin, la personne de confiance est plus ou moins mise au courant, mais ce sera tout. Bon, quand même, on a juste obtenu ça avec le soutien d'une infâme. Ce sont au contraire des formulaires, des trames, des boîtes informatiques structurelles, des agendas, des signatures, des auditions téléphoniques. Non, puisque du coup, ils ont rétabli la visioconf depuis le confinement,
oui.
Ce qui pour des malades mentaux pose problème. Le juge Pantin, l'infirmier Maton et le médecin Cachetonneur sont savamment mis à l'épreuve au détriment des mêmes, des personnes enfermées et entravées. L'indigence des décideurs. Depuis 3 ans, à l'occasion de ces décisions en cascade du Conseil constitutionnel, le gouvernement refuse d'avoir un débat d'ampleur sur ces pratiques coercitives et n'apporte une réponse exclusivement technique à ces mesures traumatisantes pour les personnes qui y sont soumises. Alors que de nombreux pays et instances internationales sont sur le chemin de l'abolition de la contention mécanique et de la décroissance des mesures d'entrave, la France renforce de son côté le système contentionnaire. Voir le prochain bouquin de Mathieu Bellassène contre ce système contentionnaire. Dans l'indifférence des pouvoirs publics, se développent des maltraitances institutionnelles généralisées, s'expliquant par de nombreux facteurs, imaginaires sécuritaires prégnants dans la société et dans les soins, pénurie de moyens psychiques et humains pour accueillir les personnes troublées, désintérêt de la psychiatrie pour l'activité de soins complexes, contention financière du service public psychiatrique et contention législative par l'absence de débat éclairé. En effet, les réformes successives qui ont eu cours sur l'isolement contention, le débat a été rasé. puisque c'était des articles succincts, enfin bon, détaillés au niveau de la pagination, insérés dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, le Parlement vote les budgets de la Sécu et vote le budget de l'État. Or, le budget, le texte sur un budget de la sécurité sociale qui porte sur quelque 350 milliards d'euros, hein, c'est énorme, hein, c'est énorme, la masse budgétaire est énorme, comprend 70-80 articles. Donc un article comme ça sur l'isolement contention, c'est vite débattu, quoi. On ne peut pas parler de débat de fond là-dessus. Donc ils ont expédié à la va-vite ces réformes de façon bureaucratique. Donc, dans ce contexte, la France doit-elle se contenter du retour à un fonctionnement asilaire, transformant l'emprise sur les corps des personnes psychiatrisées en soins, comme en témoignent les assises de la santé mentale de 2021. Si les pouvoirs publics sont désormais plus intéressés par la e-santé mentale et sa dématérialisation, les chatbots pour, en guise d'entretien thérapeutique, vous parlez à un robot qui vous répond. Dans les pratiques de la psychiatrie ordinaire, cela se traduit par de la surmatérialisation de sangles et de murs. Donc le Conseil Constite, saisi de plusieurs QPC, doit rendre sa nouvelle décision le 31 mars. Il est urgent que s'ouvre un débat national, car il en va de la dignité des personnes ayant des troubles psychiques graves, de la sauvegarde des droits humains fondamentaux et de l'avenir d'une psychiatrie ayant de réelles dimensions thérapeutiques qui ne se contente pas de recrudescence de sa fonction répressive et coercitive. Alors auparavant, il y avait eu de Dospimédia le 29 mars une dépêche très intéressante de Madame Caroline Cordier qui disait la chose suivante vers une nouvelle injonction à légiférer. Alors le résumé de tête de cette dépêche, le gouvernement pourrait être une troisième fois contraint par le Conseil Constite à légiférer sur l'encadrement de l'isolement et de la contention. Va-t-on enfin vers l'épilogue de ce feuilleton juridique qui dure depuis plusieurs années? Oui, au plan constitutionnel, on y est. Alors, elle disait quelque chose d'intéressant, par ailleurs, dans cette dépêche. Réforme de la législation forcée par les QPC. On a eu, sur les droits fondamentaux des personnes psychiatrisées, depuis 2010-2011, des réformes forcées. C'est-à-dire le gouvernement, le Parlement et les corps de métier ont eu la main forcée. Bien. Et donc, elle a bien raison de dire cela. Les sages rendent ce 31 mars leur réponse sur de nouvelles QPC. Bon, le 23 mars a été examiné. De manière générale, il y a ici une nouvelle illustration du fait que les différents gouvernements, depuis plus de 10 ans, ne légifèrent sur la psychiatrie qu'au forceps, à l'exception du volet financier de la discipline. L'association CRPA le rappelle justement sur son site, à l'exception de la traçabilité de l'isolement et de la contention adoptée par amendement, hein, du député Denis Robillard, alors député socialiste du Loir-et-Cher dans le cadre de la loi Santé Touraine du 26 janvier 2016, citation CRPA, l'ensemble des réformes concernant les droits fondamentaux des personnes psychiatrisées sous contrainte depuis 2010 ont été adoptées par le gouvernement et le Parlement sous la contrainte de décisions de censure prises par le Conseil constitutionnel, souligne l'association. Bien, c'est donc la 10e fois que le Conseil constitutionnel a statué. Alors, on est devant un régime d'urgence permanente, parce que ce que nous faisons, et c'est comme ça que j'avais obtenu notamment que les parlementaires de l'opposition, en juin 2021, ne se pourvoient pas en saisine parlementaire auprès du Conseil constitutionnel sur la réforme du 5 juillet 2011, introduisant un contrôle judiciaire systématique sur QPC et légalisant les programmes de soins, entre autres. C'est, ce qu'on ne voit pas, c'est que nous avons cherché, nous, à ce qu'il y ait une mobilisation continue sur la question des droits fondamentaux des psychiatrisés, des malades mentaux, des internés, pour que cela sorte du silence.
Oui.
Bon. Or, c'est un peu ce qui se passe, quoi qu'il y ait un étouffoir quand même, mais nettement moins qu'avant, avec la conjonction d'une part de ces actions procédurales, la mobilisation des corps de métier judiciaire, hein, qui est très importante. Hein. Bon, moi, ça me fout la rage parce que nous, on est exclus, parce qu'on a été mis de côté, mais on a toujours été mis de côté, toujours. Donc, c'est pas nouveau. Bon, il y a cela, il y a eu la conjonction également de l'entrée en vigueur et du déploiement des activités du contrôle général des lieux de privation de liberté et le serrage de boulons partout sur les puissances occidentales. Parce que partout dans les puissances occidentales, il y a un serrage de boulons, montée de l'extrême droite, etc. voire le Trumpisme aux USA. Donc oui, c'est ça. Il s'agit toujours de maintenir des projecteurs braqués sur la question de la violation des droits de l'homme en psychiatrie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réticence des institutions à faire appliquer, à faire respecter et appliquer les droits des personnes hospitalisées.
Ben, c'est pas qu'une réticence, c'est un refus.
Un refus.
C'est un refus carré et net, puisqu'il faut y aller au forceps. Oui. Si vous obtenez, en gros ce qu'on nous dit, vous obtenez des décisions de censure par les hautes cours qui rendent obligatoires des réformes, on fait ces réformes, mais d'ailleurs, ils se sont débrouillés, les pouvoirs publics, le gouvernement, les majorités parlementaires, se sont débrouillés pour introduire ces réformes, de sorte à les coupler avec la rationalisation du circuit de l'hôpital psychiatrique public, et à en faire un des moyens pour rendre rédhibitoires les vocations soignantes. Puisque une des raisons de la vague de grandes démissions en psychiatrie publique, c'est la judiciarisation avec la protocolisation des pratiques, avec les pressions, la précarisation de l'emploi, et avec le fait que ça n'est pas intéressant pour des soignants en bonne et due forme de travailler en psychiatrie publique. Ça n'est pas intéressant. Ça leur permet pas, ceux qui veulent faire du soin ne peuvent pas, et d'autre part, c'est beaucoup trop protocolisé et beaucoup trop répressif. Ça n'est pas intéressant. Le syndicat des psychiatres des hôpitaux a révélé il y a quelques mois, après un sondage, puisque c'est un syndicat majoritaire chez les chefs de service, que près des deux tiers des répondants à une enquête qu'ils ont lancée envisageaient, de psychiatres hospitaliers, envisagent de quitter l'hôpital public. Deux tiers. Oui. Donc précarisation de l'emploi, embauche d'intérimaires, embauche de médecins à diplôme étranger qui sont sur statut précaire, etc. etc.
Manque de moyens et de personnel de l'hôpital public qui
a alors même... Non, c'est pas seulement le manque de moyens. C'est, alors, il y a la précarisation de l'emploi, de toutes les façons, et il y a que, la protocolisation couplée à la judiciarisation fait que celles et ceux qui veulent faire un travail de soins dans des conditions pareilles, où il y a la hiérarchie administrative vous tombe dessus, il n'y a plus de marge de manœuvre dans les services. Il n'y a plus de marge de manœuvre dans les services.
D'accord.
La loi HPST de 2009 a fait que les médecins des hôpitaux sont affectés sur poste par le directeur dans une logique administrative. Avant, ils étaient affectés par la DGOS. Par le ministère de la Santé, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les soignants qui veulent faire du soin.
Oui.
Mieux même, on sait que dans des établissements où on s'efforce, où des services s'efforcent d'avoir des pratiques à hauteur d'hommes et de femmes, les sanctions, hiérarchiques tombent.
Bon. Il n'y a plus beaucoup de monde donc pour pratiquer ces pratiques inhumaines et dégradantes.
Eh bien, c'est-à-dire qu'ils embauchent des gens très 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 tombés comme ça sur des objectifs, etc., qui travaillent essentiellement sur écran et qui vous géreront au protocole, par protocole. C'est-à-dire qu'il y a un protocole, c'est ça qu'on ne voit pas. Dans de nombreux services, vous arrivez, le protocole c'est tel et tel, vous êtes envoyé sur rail, et si le protocole le dit, on vous met en isolement et sous contention, comme ça, ça débarrasse.
Oui.
C'est ça qu'il faut voir. Donc on n'aille pas nous dire que c'est seulement la pénurie d'effectifs, mais non, c'est l'ensemble d'une logique.
Ce ne sont pas des mesures thérapeutiques de toute façon.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, je reviens là-dessus, c'est l'ensemble d'une logique hospitalière qui fait que si des équipes correctement dirigées ou si des soignants plutôt, même s'ils ne sont pas isolés, veulent faire un travail de soins, la logique administrative qui tombe en hiérarchie est dissuasive. Encore une fois, oui. Le contrôle général des lieux de privation de liberté, il y a 6 mois, 1 an, a souligné le cas d'un service de psychiatrie qui fonctionnait très bien en province, de façon très humaine, et qui a été ratiboisé et cassé par l'ARS.
D'accord.
Bon.
Ah oui.
C'est-à-dire que même, c'est pour ça qu'il y a lieu, alors on avait eu un début de discussion à la conf débat du 25 mars, il y a lieu de s'inquiéter du fait qu'une équipe de chercheurs sociologues a été, et anthropologues d'ailleurs, a été dépêchée pour expertiser les 15% de services en France de psychiatrie publique qui ne se servent pas spécialement de l'isolement de contention, bien. Et c'est, on peut craindre qu'une fois cette enquête, cette expertise remontée aux tutelles, donc aux ARS et au ministère de la Santé, ces tutelles ne s'en servent pour réprimer ces services. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mathieu Bellassène ? Bien. Donc, on est sur une logique dans laquelle, non, non, on peut plus seulement s'abriter derrière le manque de moyens. C'est plus ça, c'est plus seulement ça. C'est que, comment dire, travailler, d'abord, c'est ce que disent les syndicats, travailler pour des psychiatres hospitaliers qui veulent servir de service public, quoi, de l'hôpital public, travailler dans de pareilles conditions, ben, c'est... est-ce qu'on a envie de travailler dans de pareilles conditions ?
C'est pas intéressant.
C'est pas attractif. Ouais, ouais. Bon, donc, bon, alors ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc on en est là. Donc en fait, donc, pour résumer, la porte est ouverte là à une mobilisation en droit interne dans les juridictions, dans les barreaux. Puisque tout de même, si on voit la Conférence nationale des barreaux intervenir pour la deuxième fois en intervention au soutien de la QPC, d'une QPC isolement contention, ça veut dire que l'organe représentatif de l'ensemble des barreaux de France a décidé de mouiller la chemise. Et si l'on voit par ailleurs que pour la première fois, le barreau de Paris, qui concentre pratiquement la moitié des avocats de France, s'inscrit dans la danse, rentre dans la danse et se porte intervenant, ça veut dire que, bon, il y a des questions de principe, de toute façon, il y a un marché, le marché du droit, premièrement, et deuxièmement, il y a une question de principe, surtout quand on voit le syndicat de la magistrature intervenir là-dedans. Bon, donc, ça laisse augurer que, désormais, de façon claire, pour les professions juridiques, le terrain de la maltraitance et des violations de droits sur les personnes internées et traitées de force en milieu psychiatrique est un vrai terrain. Donc ça, en soi, c'est un progrès. Alors maintenant, je dois dire qu'il faut se poser la question, c'est un progrès dans une période de plus en plus noire.
Oui.
Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, hein, parce qu'il y a seulement 10 ou 15 ans, enfin pas 10 ans, il y a 15 ans, l'étouffoir était posé. Je dois dire. L'étouffoir était posé. Bien, voilà. Donc, on peut faire une pause ?
Bien sûr.
Avec toi, petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi.
Des chemins d'infortune envers et contre tout, les cerveaux résonnant. Dans ce bordel exubérant, j'accueille notre déséquilibre, ma chérie l'invisible,
ma chérie l'imprévisible. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi, petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi. Petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi, petite voix psychotique, que j'aime discuter avec toi.
Radio Libertaire, c'est toujours l'entonnoir, c'est... L'émission psychiatrique de l'émission critique de la psychiatrie, et on vient d'entendre les pompons sauvages. Alors j'annonce un événement pour demain, jeudi 6 avril 2023 à 19h au Cirque électrique, la Fabrique édition 25 ans. Donc fête son anniversaire, cycle de rencontres. Alors le Cirque électrique, c'est dans le 20e, à la Porte des Lilas, place du Marquis du Vercors. Et il y aura une rencontre révolte psy avec Olivier Brisson, Mathieu Bellassène et Florent Gabaron-Garcia. Et un cycle de rencontres, donc ce soir-là, demain soir, va s'organiser tout au long de l'année au Cirque Électrique autour du sujet Révolte Psy. Alors avec Olivier Brisson, auteur de Pour une psychiatrie indisciplinée, et Mathieu Bellassène, auteur de La santé mentale, et Florent Gabaron-Garcia, auteur de L'histoire populaire de la psychanalyse. Entrée gratuite, inscription conseillée, jeudi 6 avril à 19h. Et je ne me souviens plus du titre du livre que va sortir Mathieu Bellassène.
Mais contre l'univers contentionnaire.
Ah voilà, contre l'univers contentionnaire, abolition de la contention. Et nous reprenons notre conversation avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
Oui, alors, par une dépêche du 3 avril 2023, Hospimedia, confirme une position de la FNAPSI qui demande au ministre de la Santé le gel des projets d'unités de soins intensifs en psychiatrique, les USIP. Alors, à défaut de pouvoir ériger de nouvelles unités pour maladies difficiles, ce que les présidents de conf, de conférences, mais également les directions d'hôpitaux et certaines CME aimeraient bien, puisque les unités pour maladies difficiles sont quand même régies par un texte réglementaire, un décret. Alors, les hôpitaux se débrouillent pour bâtir ou restructurer dans leur établissement les hôpitaux psychiatriques à la faveur des crédits architecturaux et des rénovations de bâtiments et de sites, des unités de soins intensifs en psychiatrie, des USIP, unités de soins intensifs psychiatriques. Alors, il faut voir que c'est un peu sur le schéma du Vinatier, hein, à savoir qu'au Vinatier, à Bron, banlieue lyonnaise, il y a unité pour maladies difficiles, une UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, hôpital-prison, bien. Alors, une UMAP, unité pour malades agités perturbateurs, ce que je suis pour ces gens-là, hein, oui. Unité de soins intensifs psychiatriques, un service d'accueil d'urgence, etc. Enfin, vous êtes ventilé comme ça, mais bien. Donc, le problème, c'est que l'érection, en quelque sorte, de ces unités sauvages pose problème, parce qu'en réalité, les USIP, les unités de soins intensifs psychiatriques, sont bel et bien des petites UMD. C'est des unités pour maladies difficiles qui ne disent pas leur nom. Alors, je reprends cette dépêche. Une nouvelle demande de moratoire sur la création d'unités de soins intensifs psychiatriques est formulée par la FNAPSI dans une lettre ouverte au ministre de la Santé. Dans une lettre ouverte au ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, datée du 31 mars, la présidente de la FNAPSI, Claude Finkelstein, demande de nouveau un gel des créations d'unités de soins intensifs psychiatriques et l'avancée des travaux au ministère sur ces structures. Alors que les principaux représentants de la psychiatrie publique ont déjà réclamé en juillet 2022 un moratoire sur la mise en place de telles unités, les travaux ont tout juste commencé au cours de la seconde quinzaine de mars, selon nos informations. Ça, c'est toujours la même chose au ministère de la Santé. Quand on leur fait des demandes pressantes, ils créent une commission Théodule, ils réunissent un groupe d'experts, très autosatisfaits de se réunir, ils en sortent 6 mois, 1 an, 2 ans après un vague rapport... un colloque dans la salle de conf prestigieuse du ministère de la Santé, puis après c'est vraiment enfin on les connaît quoi. Alors, citation de la lettre de Mme Finkelstein en qualité de présidente de la FNAPSI. À l'heure où, dans notre pays, le Conseil constitutionnel est de nouveau saisi sur le respect des libertés individuelles fondamentales en psychiatrie, nous ne pouvons fermer les yeux devant le déploiement sur le territoire national de structures autoproclamées, unités de soins intensifs psychiatriques sans texte légal, encadrant leur fonctionnement ni validation nationale en termes de bonnes pratiques. Alerte la présidente de la FNAPSI, elle évoque une prolifération de ces dispositifs qui, par nature, font un large usage de la contention de l'isolement, mais n'ont pas de base réglementaire et posent des problèmes tant aux représentants des usagers et parents qu'aux contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté, CGLPL. Ces USIP, unités de soins intensifs psychiatriques, sont une démonstration de création sans concertation préalable de structures non réglementées ni évaluables, chose inacceptable en droit s'agissant des lieux de privation de liberté, insiste-t-elle, craignant le retour des pavillons de force du XIXe siècle en France. ces pavillons de force qui sont devenus, à travers l'initiative d'Henri, enfin, sur Villejuif, Henri Collin à Villejuif, médecin-chef, bah, la création de la première unité, unité pour maladies difficiles, à Villejuif en 1910. Pour Claude Finkelstein, il est impératif que les projets de création de nouvelles usines soient gelés tant que les travaux d'une mission ad hoc n'auront pas permis la publication de textes encadrant de tels services. C'est-à-dire que, bon, mais là encore, sur ces choses-là, le ministère de la Santé est très récalcitrant à prendre des textes impératifs. Hein. Il préfère, de tout temps, le ministère de la Santé, en matière psy, préfère... prendre des instructions, des circulaires, qu'il y ait un état de fait qui soit créé sur le terrain, et quand cet état de fait a suffisamment duré, on légalise. Hein? Donc, la présidente de l'FNEPSI s'inquiète également du fait qu'un groupe de travail restreint qui s'était constitué sur le sujet ait finalement annulé sa première réunion tout début mars. Selon plusieurs sources contactées par Hospimedia, l'organisation de ces travaux a été confiée depuis à la Commission nationale de la psychiatrie, CNP, et plusieurs de ses membres ont débuté leurs échanges à ce sujet le 20 mars dernier. Cette fameuse Commission nationale sur la psychiatrie, qui a remplacé l'organigramme précédent, d'abord d'Agnès Buzyn, puis de Marisol Touraine, qui est dirigée à l'heure actuelle par le professeur Lejoyeux, chef de pôle sur 18e arrondissement, sur Bichat, bon, qui est très PUPH, et qui ne sort rien. C'est des commissions théodules. Mais enfin, bon, c'est déjà ça. Il y a à tout le moins cette mobilisation sur cette question. D'autre part, je profite de cette antenne pour annoncer que nous allons faire notre prochaine conf-débat le samedi 24 juin prochain, donc on a le temps, sur la question de la pérédance professionnalisée, donc l'embauche sur diplôme universitaire spécifique de personnes patientes, usagères en qualité de patient des services de psychiatrie, bien, sur diplôme, bien, les problèmes que ça pose, notamment de droit du travail, puisque visiblement il y a de véritables dépassements, de véritables abus sur cette main-d'œuvre qui est précaire et qui peut être internée sur le lieu même, hein, ce qui est vraiment, c'est vraiment ennuyeux. Hein. Et donc, mais par ailleurs, des aspects positifs, puisqu'il y en a aussi. Il y en a aussi. Donc, cette question est sur un deuxième temps, sur l'histoire, enfin je vais essayer de faire un topo aussi objectif que possible, disons, sur l'histoire réelle et non supposée des mouvements de personnes patientes de la psychiatrie en France. Puisque, en fait, l'histoire authentique de ce qui s'est passé pour la FNAPSI, le développement de la FNAPSI, ça n'a pas, bon, à ma connaissance, ça n'a pas été rédigé, sauf des choses apologétiques du point de vue très institutionnel. Sur l'histoire du groupe Information Asile, ça, j'ai fait un point en 2015, c'est pas un problème, il y a Wikipédia. Mais donc, la question de la difficile structuration en France des mouvements d'usagers et des mouvements de personnes concernées en qualité de patient par la psychiatrie, ça pose problème. Il y a un étouffoir là-dessus, je pense. Hein. Ou alors, les professionnels ou les chercheurs qui interviennent là-dessus font des trucs très, très lointains, très dans le sens institutionnel, parce qu'il y a des carrières, etc. Et donc, déforment. C'est biaisé.
Il y a des choses qui commencent à fleurir un peu en France, un peu partout, qui sont des petits festivals ou des petits événements autour de cette question de la psychiatrie.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, oui, il y a une efflorescence, il y a une nette efflorescence. Hein, la parole s'est libérée avec l'Internet. Oui. C'est pas ça, c'est que l'histoire des mouvements de patients, de personnes, l'histoire
n'est pas écrite.
Ah, mais très peu, elle est biaisée. Hein. Oui. Moi, je me rappelle de cette espèce de falsification problématique. 2009, Guy Bayon, les usagers au secours de la psychiatrie. Bien. Alors, il y a eu le bouquin récent d'il y a un, deux ans de Nicolas Franck, médecin-chef, chef de pôle sur le Binatier, qui supervise le programme de DU, de diplôme universitaire sur la pérédance à Lyon, avec un article écrit par Philippe Maugiron. Mais c'est sur l'angle de la pérédance, comment ça a percé au plan international. Mais nous, on n'a pas d'histoire.
Oui.
Bon. Ben pour cause, c'est que la psychiatrie française rejette tout ce qui est contre-pouvoir.
Ah, complètement, mais voilà. Oui.
À telle enseigne que là, moi je pense, hein, c'est ma thèse, que ce qui a permis que la Commission des citoyens droits de l'homme, liée à l'Église de Scientologie, perce dans ce pays, ait un impact réel dans ce pays au niveau de la psychiatrie, c'est cette carence. Cette carence, à savoir que les institutions psychiatriques, le pouvoir central, les institutions déléguées, les ARS, etc., ont fait diriger souvent à gauche, politiquement à gauche, hein, faut pas se leurrer, ont fait le possible pour qu'il n'y ait pas d'émergence, sauf sous tutelle et sous contrôle, de mouvements d'usagers, de personnes psychiatrisées et psychiatrisées, qui prennent la parole de façon autonome et qui percent.
Exactement.
Bon, et c'est pour ça que moi je suis quand même très heureusement surpris par les recommandations que le contrôle général des privations de liberté a pris depuis Abdinazan et que maintenant Dominique Simonneau prend, Madame Simonneau le prend de favoriser dans l'intra-hospitalier sur les soins sous contrainte la paire aidance et donc la prise de parole et la participation des personnes concernées et de leurs associations. Donc je pense qu'il y a une conjonction. Alors ce qu'il y a, c'est que le développement des mouvements d'usagers se fait à travers des subsides distribués par l'État qui permettent à l'État et aux ARS de contrôler, et aux établissements, aux directions, de contrôler les usagers de services. De contrôler.
Oui. Faites une médiation, quelque part.
Une courroie de transmission.
Oui.
Pas plus, pas moins. C'est ce qu'on va discuter le 24 juin. Pas plus, pas moins qu'une courroie de transmission. Alors il y a trois chances qu'on a. Le déploiement de l'Internet permet quand même de libérer la parole. L'Internet permet de libérer la parole. Le déploiement procédural permet à des gens d'y aller, la judiciarisation. Et le contrôle général des privations de liberté introduit un réel projecteur sur les violations de droits. Et d'autre part, il y a une efflorescence, une mise à la mode de nouveau des témoignages de personnes psychiatrisées au niveau publicatif.
Oui.
Des auteurs germano-pratins, dont moi je pense pas du bien, hein, peuvent publier là-dessus et dire qu'ils ont été internés, machin. Bon. Moi, je pense pas du bien de ces gens-là, mais bon, c'est pas moi qui les lis, hein, je vais pas leur verser le droit d'auteur. Mais 13,
oui.
13, alors 13. Alors évidemment, on est dans l'esthétisation de la détresse humaine, l'esthétisation des dénonciations, puisque c'est du slam, c'est de la littérature, etc. Mais la littérature de témoignage présente un très grand intérêt. Au moins, ça perce. Donc il y a cela, ça c'est sur ça, désormais, c'est déployé. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on n'est pas dans un univers où se créent des solidarités virtuelles sur la toile et où quand on en arrive aux solidarités effectives, là, ça n'y est plus ou plus tellement. Alors là, ça pose problème. Donc en tout cas, qu'il y ait de nouveau, à travers le pays et plus précisément en région parisienne, des festivals, des prises de parole permettant les prises de parole de professionnels qui en ont marre, de personnes concernées en qualité de patients, de familles et de proches, c'est une très bonne chose. Simplement, l'éternel problème, et ça c'est des trois jours sur le plateau des Mille Vaches, hein, il y a pas mal de mois, Zinzine, qui est une opposante queer, hein, je crois, à cela, qui avait assisté, n'en a pas moins dénoncé, comme d'habitude, le paternalisme des organisateurs et des professionnels sur le terrain. À savoir que c'est à se demander si nous... Moi, c'est pas pour rien que, de mon côté, avec d'autres, on fait bande à part, en disant, bon, les pressions, on n'y va pas, quoi. Il y a un principe de non-mixité, quoi, qui était le principe de base du groupe Information Asile. Jusqu'à quand on va tolérer les uns les autres, parce que, bon, c'est des intérêts de carrière, etc. Jusqu'à quand les uns et les autres vont tolérer? Moi, je ne tolère pas, hein, c'est tout. Je me suis incessamment mobilisé contre cela. Ce regard paternaliste qui nous folle d'un guise immédiatement, qui nous infantilise aussi sec et qui nous renvoie à la case d'être un fou de service. C'est pas supportable. C'est pas supportable, vraiment.
On ne veut plus de blouse blanche.
Mais pas seulement, il y a les professionnels, de toutes les façons, c'est un pli dans le cadre du rapport de domination, hein, finalement. Mais les proches, et puis de proche en proche, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde.
C'est vrai.
Bon.
Oui.
Bon, d'ailleurs, c'est un peu tout le monde dans nos milieux. Bon. Donc, quelque part, ça laisse... Moi, je dis que l'éternel problème, c'est que cela contraint les gens qui ont fait ou font de la psychiatrie à vivre ou à prendre leur marque dans des ghettos de psychiatrisés. Parce qu'il y a, un phénomène de ghettoisation. Et à l'intérieur de ces ghettos de psychiatrisés se pose la question de comment tolérer l'auto-invalidation des gens par eux-mêmes. Parce qu'elle est, exécrable, elle est très très violente et très puissante. C'est donc les questions qui se posent. En tout cas, j'annonce cette conf-débat sur la pérédance professionnalisée et les problèmes de droit du travail que ça pose, hein, bien, et puis les problèmes de collaboration avec un tel système, le 24 juin, samedi 24 juin prochain, 14h à la GK. Et en deuxième partie, je vais tenter de faire un historique de sorte à déclencher un débat sur l'histoire des mouvements d'usagers de personnes psychiatrisées en France ces dernières décennies.
La GK, 77 rue de Charonne.
177 rue de Charonne, oui, voilà. Mais il y aura une publication en temps et en heure.
Alors, tu parlais de 13 ce produit, enfin, apparaît dans un petit festival mercredi 3 mai à 20h, un petit festival intitulé Symphonie et Siphonée. Qui a lieu du 27 avril au 3 mai à Saint-Étienne. Voilà. Saint-Étienne. Avec, en partenariat avec trois groupes d'entraide mutuelle. Et donc ça se passe place Chavanel à Saint-Étienne. Et il y a d'autres petits événements comme ça en province qui fleurissent en ce printemps 2023. Il y a Vie de Radeau, festival finistérien, au Finistère, sur les santé mentales, normes, soins, hospitalité. Avec quelques personnes dans les contrées du bout du monde, on organise un petit festival qui s'appelle Vie de Radeau et qui parle de santé mentale, normes, soins, hospitalité. On a prévu des projections de films avec des réalisateurs invités pour venir nous en parler. Il y aura aussi des présentations de livres et des auteurs-autrices qui viendront pour en discuter. Aussi des moments d'écoute radio, un atelier fanzine, des moments de discussion et tout, ça se passera en majeure partie à Douarnenez, dans le Finistère, et aussi un peu à Quimper. Donc il y a un lien, c'est labaleine.arvalum.org/viderado. Vie au pluriel. Et bienvenue à tous. Ensuite, je voulais simplement signaler que c'est du 2 au 3 avril, donc ça a commencé au 13 avril. Donc c'est jusqu'au 13 avril, ce petit festival dans le Finistère. Eh bien... Merci André pour cette page d'actualité juridique concernant la
psychiatrie. Je voudrais dire un mot également.
Oui.
Je tiens à remercier Radio Libertaire, Denis, l'ancienne équipe que vous avez formée avec Jean Guillaume, hein, qui est Nathalie, hein, qui était très bien, pour avoir l'antenne. Et je veux dire que moi, c'est l'obédience libertaire, c'est plus la mienne. Hein. J'étais libertaire quand j'étais jeune. Donc c'est plus la mienne, mais je pense qu'il y a là, c'est là la seule antenne, hein, qui est ouverte à tout cela. Hein. Et c'est une ouverture habituelle puisque le groupe Information Asile avait antenne ouverte également auparavant auprès de la mouvance libertaire parisienne. Donc je tiens à remercier la Fédération anarchiste et Radio Libertaire.
Voilà, ainsi se termine l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie pour aujourd'hui. On va finir encore avec un... On va se relaxer avec Louis Chédid.
Nous vivons des temps difficiles, sous-marin nucléaire, bazooka missile. Nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambules sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar. Toutes ces angoisses qui nous contaminent, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées terres, de l'air, de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos living. À écouter les transistors, faudrait vivre dans des coffres forts. C'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Dans nos voitures des chaînes, à nos serrures des alarmes, cachées sous nos tentures des explosifs, dans nos boîtes à chaussures, toute cette hystérie, tout ce stress, ça fait marcher le petit commerce. Y en a qui louent des chiens loups, qui achètent des revolvers, qui voient des gangsters. La télévision, y en a que ça rend de plus en plus con. C'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Des armes à l'Amérique latine, tout en dénonçant ces dictatures assassines. Nous vivons le temps réaliste des marchands de feux d'artifice. C'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose.